bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec la bande au grand complet. Pour finir cette semaine, c'est notre voisin de bureau pratiquement. Surtout, il nous régale sur scène avec son spectacle Bon Chien Chien. L'invité est Thomas VDB dans la bande originale aujourd'hui. Bienvenue Thomas, c'est la première fois je crois.
En invité. Ouais. C'est la première fois que je la veille de venir à Inter, je me dis tiens demain j'ai Inter, mais j'ai rien à écrire. Parce que j'ai toujours une chronique à écrire quand je viens à France Inter, et là je suis invité. Je peux dire ce que je veux.
En tout cas c'est la première fois dans cette émission.
Absolument, évidemment. Bah ouais, aussi du coup.
Mais pourquoi?
Bah ça, c'est, j'allais vous demander d'ailleurs. Pourquoi vous m'avez pas invité encore plein de fois?
Mais ça, non, je me pose la question.
Bah, le fait que t'aies refusé à chaque fois, Nagui,
ça
quand même.
Ça n'a pas aidé.
Je ne l'ai jamais refusé et au contraire, ça me fait énormément plaisir.
Mais je suis ravi. Merci Nagui.
D'abord, votre vie trouve écho dans la nôtre et dans la mienne quand je vois le spectacle. Et puis les goûts musicaux aussi. C'est peut-être même le seul reproche. Je vais commencer par le reproche parce que
la musique.
Non. Je vais passer une heure et demie à dire du bien de vous. Il y a un truc que je trouve intolérable dans votre spectacle.
Alors, j'ai hâte. C'est quoi? C'est le fait que je vais aller dans les concerts me fatigue un peu? Non,
non, non. Non, tout ça, je l'ai vécu aussi.
Ok. Je
n'aime pas Johnny.
Non.
Vous
chantez à la place de Springsteen à la fin.
Ah oui, non, mais c'est vrai.
C'est un crime.
Ben oui, non, mais disons.
Pour qui tu te prends?
Ben, on n'a pas eu les droits. La dame de la SACEM n'était pas complètement d'accord, donc j'ai dit bah c'est pas grave, je vais couvrir la voix de Bruce Springsteen à la fin et puis sur Born in the USA et je vais réinventer les paroles.
Donc, c'est ce pas que mal, je fais effectivement. C'est pas mal.
C'est pas mal. Ouais, voilà, ouais. Les gens disent juste que c'est pas mal en général. Les fans de Springsteen sont pas là, mais écoute c'était génial, génial. C'est rare.
Thomas VDB, donc ce grand malade, on va en parler avec lui. 4 mois de carton plein au Sentier des Halles. Et cette fois-ci.
Si je peux me permettre plus que ça, j'ai joué.
Enfin, ça fait plus,
j'ai joué 1 an et demi au Sentier des Halles. Donc,
avec Bon Chien Chien.
Avec Bon Chien Chien, exactement.
Parfait, voilà. Formidable. On va en reparler. Mais d'abord, connaissez-vous si bien que ça Thomas VDB? Voici. L'interro sur Thomas VDB. En tant que collectionneur de vinyle, il en parle d'ailleurs dans son spectacle. Qu'est-ce qu'il arrive quelquefois à Thomas?
D'en avoir en double, en triple?
Non.
De les faire fondre?
Ça m'arrive aussi, mais.
De les rayer de rage?
Non.
Les
faire fondre, moi, c'est sur la plage arrière de la voiture.
Non.
Ah, on adore mettre ses vinyles sur la plage arrière de sa voiture. Ça, je demande à tout le monde de faire ça avant de partir en vacances.
De les utiliser comme autre chose?
Non.
Sous plat?
Non. Non.
De faire du frisbee.
De les perdre, non.
Non. Il est collectionneur et puis il est tellement collectionneur qu'il
les revend.
Et des fois.
Et moins cher.
Non.
Il les dédicace lui-même.
Il les distribue dans la rue.
Non.
Mais il les jette à la poubelle.
C'est un truc dingue. Il l'a vendu un album. C'est un truc dingue.
Au mec qui l'a fait. Il l'a revendu. C'est un mec qui cherchait son propre album.
Non, mais c'est un peu l'idée.
Il revend un autre collectionneur qui adore. Il le cède. C'est quoi?
Il le rachète. C'est-à-dire qu'il l'a vendu et alors, il rachète un disque qu'il a vendu.
Mais si possible, plus cher. Parce que vraiment, j'ai envie d'être perdant sur toute la ligne. Non, c'est pas drôle.
Tout le monde se regarde en disant, il est con quoi.
Bah ouais, non, mais c'est ça.
Moi, je savais avant qu'il était con.
J'étais venu à l'antenne France Inter pour expliquer que je suis un peu con. Non, parce qu'effectivement, je collectionne les disques de plein de groupes. En général, dès que je tombe fan d'un groupe ou d'un artiste, je deviens un peu collectionneur compulsif. Par exemple, il me faut tous les 45 tours, des éditions, des pays différents. Alors les gens.
Même les picture discs.
Les poches, pour peu que ce soit pas la même photo de Freddie Mercury. Ouais. La moustache, elle est à droite, la moustache, elle est légèrement à gauche sur l'édition hongroise. Il faut l'édition hongroise. Donc ça m'est arrivé il y a très longtemps. Je collectionnais les disques de Queen, puisque je parle de Queen, que je continue encore de collectionner. Mais un moment dans ma vie, j'étais là, ouais, mais Anna Mar de Queen, je vais revendre ma collection de disques. Et donc j'ai revendu ma collection de disques pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, évidemment. Parce que je me suis dit, je vais pas perdre. Une bouchée de pain, ça se dit aussi. Hein,
c'est très
validé.
Il y a les moins de
bouchots
et la
bouchée
de pain.
Il y a moins de acheté cette collection de disques une dizaine d'années plus tard, à prix d'or évidemment, pour m'assurer qu'elle avait bien pris la valeur.
Il y a évidemment, alors je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont vécu, mais j'ai tellement vécu la situation du collectionneur de vinyle qui achète le programme pour numériser ses vinyles et qui fout en l'air ses soirées pour le faire. Ça m'a tellement fait rire ça. Si c'est vrai ou pas?
C'est complètement vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'alors, donc il y a les vinyles d'une part, il y a la collection de CD. Je ne sais pas si les gens imaginent ce que c'est d'avoir grandi dans dans les années 90, 2000, et tout le monde était là, t'as plein de CD chez toi. Le but, c'était d'avoir des CD. On voulait tout ouais. ça. Rappelez-vous, des tours, des tours de CD. Rappelez-vous le plaisir qu'on avait quand quelqu'un vous offrait un CD à Noël. Ouais. On était là, tiens, CD, un compact ! Ouais, j'ai un compact ! Alors que maintenant, c'est des trucs qu'on va faire un plein d'essence. Enfin, si on y arrive d'ailleurs. Mais si on va faire un plein d'essence aujourd'hui, on a des CD gratuits. Enfin, c'est le truc vraiment gratuit qu'on peut avoir hyper facilement. Et donc, moi, à un moment dans ma vie, une fois que j'avais ma collection de disques, 5000 disques, j'ai 5000 CD chez moi. Et en 2018, c'est vrai, les gens se disent, mais quel est l'intérêt d'avoir 5000 CD chez toi en 2018 ? C'est vrai que ça me donne un peu l'impression d'avoir quelque chose comme 11 000 pins. Hein, c'est vrai qu'il y a une époque dans ma vie où les gens me disaient, c'est génial, ça vaut une petite fortune.
Parce
ton truc.
Maintenant, aujourd'hui, avec un abonnement en streaming, on a des millions et
on
des millions.
On a tout. Et donc voilà, moi effectivement, j'ai perdu plusieurs soirées de ma vie, mais vraiment des mois, des années entières, à digitaliser ma collection de CD pour mettre le contenu de tous ces disques sur des disques durs. Et grosso modo, la semaine où il me restait voilà, peut-être une cinquantaine, centaine de CD à digitaliser, c'était une dizaine d'années, et j'ai lu un article sur l'arrivée du site Deezer. Et j'étais là, mais est-ce que je viens pas de perdre vraiment un quart de mon existence à essayer de digitaliser l'intégralité
tout ça,
de mes
tout ça est raconté dans le spectacle. Et pour rajouter de l'eau à ton moulin, parce que tu as été plus intelligent que moi, je ne voulais pas que mon ordinateur de musique soit sur Internet pour pas que l'on m'accuse de pirater de la musique ou de l'envoyer sur Internet. Donc, j'avais déconnecté, j'avais un ordinateur uniquement fait pour les disques et pour ma musique. Et je digitalisais tout.
Les soirées de Nagui, c'est ça que fait Nagui le soir chez lui.
Non, mais
tiens, je vais digitaliser le disque de U2. Voilà,
et ça je mettais des heures comme toi, ce que voilà. tu racontes dans le spectacle. Je mettais des heures, j'écrivais noms d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, je remplissais tout à la main. Et j'ai un pote un jour qui me dit.
Tu sais que si tu te connectes à Internet, il retrouve les noms automatiquement.
Et là, j'ai eu le sentiment de la lose. C'est le mec qui met le CD et automatiquement. Voulez-vous enregistrer l'album de machin avec toutes les chansons, tous les droits d'auteur, la pochette en photo et
Internet a reconnu tout seul. Non
oui, j'avais mal. Toujours sur notre invité Thomas VDB, il a été le premier humoriste à faire un spectacle.
Ah, les premières scènes de concert, première partie concert.
Exactement.
Ouais.
Ah bon ?
Bah oui.
Aucun humoriste.
Sans Severino.
Il y a longtemps, effectivement, spectacle. Avec mon premier spectacle qui racontait mon histoire, mon parcours de fan de rock et qui devient journaliste de rock, ce que j'ai été il y a longtemps. Comme j'ai commencé à le jouer il y a une dizaine d'années, j'avais un producteur qui du coup travaillait aussi dans le milieu de la musique, qui organisait des concerts et qui s'était entiché de mon spectacle parce qu'il trouvait que ça parlait aux fans de musique. Effectivement, j'ai un spectacle, et même celui que je faisais il y a 10 ans, et même celui que je fais aujourd'hui, est un spectacle qui, je pense, touche particulièrement les gens qui sont très fans de musique.
Alors, et d'épicerie, les deux.
Et d'épicerie aussi, puisqu'effectivement, le thème de l'épicerie est abordé. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, les épices. Non, les épices, c'est pas important. Mais effectivement, je parle de musique et d'épicerie, accessoirement aussi.
Pour Thomas VDB, en 2013... Pas de musique ? Pardon ? En 2013, s'il y a une musique, excuse-moi. Ah oui. En 2013, donc, il se fait virer de son magazine musical sur France 2. Il se fait virer plusieurs fois, en fait, ça nous fait un pantalon.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Qu'est-ce qu'on lui a demandé avant de partir ?
De rendre l'argent.
De rendre son badge.
Non.
D'aérer la pièce.
Non.
De s'engager à pas critiquer l'équipe derrière.
L'adresse de son dealer.
Ça ressemble à ça. Non. Ça, c'est en spectacle.
Il n'a pas le droit de mentionner son boss, son expérience.
De ne pas parler en mal de la chaîne.
C'est un peu ça. Donc, t'es viré et on te demande de dire quoi ?
Du bien de la
chaîne.
De dire
du bien, de faire la promo, de continuer à faire la promo.
De dire que c'est toi qui es parti parce que t'avais envie.
Ah ouais, c'est horrible.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'avais oublié ça, c'est vrai.
Hein, t'es content de partir.
Mais
hein.
Non, mais en fait, c'est la production.
Mais on te donne de l'argent pour que tu dises ça ?
Non, même pas. Ils m'ont demandé poliment la boîte de production.
Faut peut-être préciser, voilà, c'est pas
France
2,
c'est la boîte de production qui produisait. Voilà. Ils m'ont dit, non, mais on aimerait mieux que tu dises que t'es parti toi-même, sinon l'émission est obligée de s'arrêter. Et comme la production m'avait dit qu'on a trouvé un nouveau présentateur pour te remplacer, donc on aimerait mieux que ce soit toi qui dises que t'es parti. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, ne porte pas plainte. Et c'est bien, alors moi, on me l'a demandé poliment, donc j'ai pas porté plainte. Moi, quand on me demande poliment de pas attaquer,
sympa.
Je dis ouais, mais c'est bon, on s'emmerde les procès.
C'est trop tard pour que tu fasses un procès là.
Non, mais j'ai des avocats qui m'ont appelé juste après. Il y a des avocats qui ont entendu à la radio, je sais pas où, que j'avais dit que je m'étais fait virer, il fallait pas que j'en parle. Et les avocats m'ont dit, mais attends, si tu veux, on peut se faire un paquet de pognon. Hein. Mais ouais. Je vous reconnais bien là, bande de petits rats.
Quand Thomas VDB interviewait des stars de la musique avec son vieux magnétophone, de temps en temps, il lui arrivait un truc.
Pas de pile, pas de cassette.
Non.
Il enregistrait pas tout simplement, il appuyait pas.
T'étais après cela. Il appuyait, mais il appuyait sur play.
Ah, mais mince.
Et pas sur
play.
J'ai fait effectivement. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait plein d'interviews à l'époque où j'étais journaliste il y a longtemps. Et donc, du coup, ça m'arrivait d'aller à l'autre bout du monde. Un jour, je suis allé interviewer Pearl Jam, un groupe de rock américain mythique à Seattle. Ouais. Et on me dit, ouais, tu vas voir Pearl Jam dans leur studio à Seattle. Ouais, génial. Et donc, je passe une heure en tête à tête avec Eddie Vedder, le chanteur. Et déjà, faut savoir, j'avais un magnétocassette, mais moi, c'était vraiment des vieilles BASF avec du souffle, ou même quand on écoute du la musique, on entend
les ferrochromes.
Voilà, des genre ferrochromes. Et j'enregistre l'interview d'Eddie Vedder, qui déjà, il était à 1m50 de moi dans un canapé. Il y avait une forte soufflerie dans le studio. Et toute l'interview, je disais, can you speak a bit more, plus fort, Eddie Vedder? En fait, il était là, j'étais là, you're marmoning too much. Stop marmoning, because I have to write the article after. Et donc je fais toute l'interview et je me dis maintenant ça a bien enregistré et je sors de l'interview et ensuite je prends l'avion pour rentrer à Paris et je me dis je vais quand même écouter un petit peu ce que ça a donné cette interview d'Eddie Vedder parce que j'ai un article de 5 pages à rendre derrière moi et là je mets play sur le truc, j'entends c'est ça qui m'a raconté que j'entendais pas bien en fait, c'était ça qui me disait.
Et comment on fait après?
On invente.
Mais ça vous arrive plus?
Non, on se rappelle avec... Ah oui, il m'a dit
Iron Maiden aussi.
Avec Iron Maiden, ça m'arrive. Mais alors, ce qui est encore plus fou avec Iron Maiden.
Vous êtes un super poisson ou un mauvais technicien?
Un très mauvais technicien. Toutes les choses techniques, moi, tout ce qui relève des appareils, dès qu'il y a un bouton, une prise, donc ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est les voitures, c'est les ordinateurs,
les cafés,
les téléphones, les machines à café.
Les femmes.
Mais voilà, donc j'ai un problème technique très vite avec tous les appareils. Donc, en fait, et donc, l'interview d'Iron Maiden, effectivement, ce que je n'ai jamais compris, c'est que j'ai fait une interview avec le bassiste d'Iron Maiden dans son studio en Angleterre et ça enregistre très bien. Je sors, je vérifie et je suis là, yeah, we were with Iron Maiden, donc j'entends très bien toute l'interview. Et quand je suis arrivé devant mon ordinateur, je pense qu'entre temps, j'avais dû m'asseoir sur mon sac et j'ai dû me rasseoir sur la touche play record. Et comme il était en auto-reverse, j'ai réenregistré tout sur la bande. Et quand je suis arrivé, j'étais là, mais il m'a rien dit, le mec d'Iron Maiden. En fait, j'entends rien du tout. J'entends juste un métro qui roule.
Donc en fait, vous avez une très bonne mémoire, c'est ça?
Très, très bonne mémoire.
Il vous a dit, Thomas VDB, qu'il était fan de
Freddy Mercury.
Frédéric François, bien sûr.
Frédéric Mercury.
Moi aussi. Non, pas au point.
Attention.
Bah ouais.
D'accord.
Quelle photo Thomas VDB a-t-il réussi à faire en hommage à Freddie Mercury?
Bravo.
Très dur à trouver. Montre la statue.
Lui sur la plage de Zanzibar.
La photo de Bohemian Rhapsody avec
Wembley, un stade.
Barcelone.
Tu l'as le poster de Bicycle?
Ah oui, l'affiche avec toutes les femmes nues qui font du vélo sur l'album Jazz.
Culte.
Effectivement.
Un studio?
Mais c'est pas ça. Donc c'est une photo qu'il a faite. C'est un fan de Freddie Mercury.
Oui.
Quelle photo?
Est-ce que c'est dans un studio?
Non.
C'est pas une pochette avec plein de personnalités?
Pour vous aider, je vous donne un indice. Ouais. C'est très dur à trouver. Voilà, c'était mon indice. C'est même quasiment introuvable.
Genre son école, un lieu mythique de...
Attends, une photo culte de Freddy, donc.
Un indice.
Est-ce que c'est un lieu?
C'est dans un musée que ça s'est passé, la photo?
Non, c'était dans une convention, dans un rassemblement de fans de Queen en 1993. Ouais. C'est important de savoir que ça existait en 1993.
Ah ouais.
Je vous aide, c'était dans la salle des fêtes de Thionville.
Non.
Ah ben ça aide, allez, si ça aide. Franchement, ça vous aide.
Thionville.
Mais donc c'était autour du décès, parce qu'il est.
C'était un an après la mort de Freddie Mercury.
Oui.
Ouais, c'est ça. Donc
c'est pas une photo avec lui déjà?
Non,
avec le sosie.
Non, c'est justement. Il est tellement fan qu'il est heureux de faire une photo à côté de quoi?
Bah, du bassiste, de qui reste.
D'une tenue de Brian May.
Reste du groupe.
D'une fringue, de sa combinaison.
Et donc,
le Freddie Mercury. Bah,
oui.
Hein,
la veste.
Mais oui, bah, non, je vais accepter. À côté du pantalon de Freddie Mercury.
Mais
alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font des photos à côté de pantalons? Parce que ça, c'est un truc que moi j'ai fait.
Des robes de Dalida, tu vois.
Des robes de Dalida, des photos de robes. Non, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a 25 ans de ça. Donc, j'étais dans un rassemblement de fans de Queen parce que j'étais abonné au fan club de Queen et tout ça. Et donc, j'arrive dans cette belle salle des fêtes de Thionville, que les gens connaissent bien, ici même dans le public. Et donc, qui était décorée entièrement à l'effigie de Queen parce qu'il y avait des fans de Queen qui venaient du monde entier et tout ça. Et puis, on était un an et demi après la mort de Freddie Mercury, donc il y avait une fan de Queen historique qui les avait connus, qui les avait fréquentés et tout ça, et qui avait une collection entière, mais pour qui la mort de Freddie Mercury était trop dure à vivre, donc elle était là, moi je me sépare de toute ma collection, je revends des lettres, elle vendait des paroles écrites sur des papiers et tout ça.
C'est paradoxal.
Oui, mais elle voulait séparer tout, c'était trop dur pour elle.
Elle crée un musée et puis d'un coup...
Mais elle a eu besoin de couper, et elle avait acheté quelques années auparavant le pantalon de Freddie Mercury qu'il avait au Live Aid.
Oui,
le pantalon, le jean blanc.
Exactement. exactement.
Mais oui, évidemment.
Et elle était là, ben voilà, je m'en sais pas. Et donc, mais elle le vendait 5000 francs à l'époque. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ils se vendraient d'ailleurs certainement beaucoup plus cher. Ah ouais. Donc, si c'était plus cher, ça pourrait m'intéresser, parce que dès que c'est plus cher, moi, je vois. Mais donc, j'étais là, et donc, c'était quand même la seule fois de ma vie où j'ai dit, excuse-moi, mais est-ce que ça dérangerait, vu que j'ai pas les mains l'acheter, que je fasse une photo à côté du pantalon? Et elle me dit, elle me regarde d'abord d'un air un peu perplexe, elle me dit, ouais, si tu veux. Et je dis, voilà. Et donc, il existe une photo de moi, effectivement, avec un air particulièrement fier, à côté du pantalon de Freddie Mercury.
Sans Freddie Mercury dans le pantalon.
Sans Freddie Mercury.
Il serait dedans encore.
Effectivement, il n'est pas dedans.
Et... on est avant les téléphones portables, donc c'est une photo argentique. C'est chaque photo compte. C'est pas un selfie vite fait.
D'appareil
c'est
photo jetable. D'appareil photo jetable.
T'as payé pour le développer, etc.
Exactement.
T'as tendu la photo.
Ouais,
qu'on ne la perde pas.
Exactement. Exactement. Ouais. J'ai toujours cette photo chez moi.
Classe. Thomas VDB, donc, sur scène, ce spectacle où c'est pratiquement totalement vous, même si évidemment je le souhaite, notamment pour votre famille, vous extrapolez un tout petit peu sur ce qui a pu vous arriver. Le bon chien-chien, c'est parce que il est très présent en fait. Le chien est très présent, y compris votre manière de parler, de poser des questions au chien.
Alors. Le chien, alors non, faut préciser aux gens quand même qu'il y a pas, c'est pas un spectacle avec un chien sur scène, parce que peut-être les gens se disent, ah, on va voir un spectacle de dresseur de chien, pas du tout.
Oh, non. Vous êtes un peu cabot.
Alors, je suis un peu cabot quand même, c'est peut-être moi le cabot du spectacle. Non, bon chien-chien, effectivement, ça me définit un peu moi, comme l'a gentiment dit Albert Algout dans son article, c'est dans le Canard Enchaîné il y a deux jours. C'est vrai, vous l'avez dit magnifiquement, Albert, qu'est-ce que vous avez dit exactement dans l'article?
J'ai dit que c'était un spectacle au poil.
Voilà, au poil, voilà, je pense que c'est une bonne façon d'en parler. Et, non, le bon chien-chien, c'est moi, et c'est en fait, mais comme j'avais peur de pas me rappeler le nom de mon spectacle. En fait, c'est le mot de passe de mon accès à banque en ligne sur Internet. Et voilà, donc je me suis dit, comme ça, c'est une bonne façon de me rappeler du nom de mon spectacle.
Au poil, mais escroc quand même.
Un peu aussi, voilà.
Ça commence aussi, vous n'avez aucune barrière, notamment sur vos voyages pour Amsterdam, parce que l'idée même d'aimer les chiens au point de caresser un gentil labrador qui se trouve près du train au moment où vous montez dans le train, c'est tellement drôle.
Disons que... donc voilà, j'ai une tête, comme je le dis dans le spectacle, j'ai une tête vraiment dans la tête que j'ai là. Les gens voient ma tête.
Vous avez une tête à être contrôlée en revenant d'Amsterdam.
Systématiquement, mais même en revenant de Lozère, n'importe quoi. Les gens sont là, vous monsieur, venez là. Systématiquement. Et donc effectivement, et comme je l'explique dans le spectacle, ça m'est même arrivé un jour avec ma tête de me faire contrôler pour prendre le train pour aller à Amsterdam, mais en étant contrôlé en allant à l'aller. Qu'on se fait contrôler en allant à Amsterdam et qu'on se fait contrôler à l'aller, on se dit tiens, j'aurais peut-être dû mettre un autre chandail. Parce que bon. Et donc voilà.
On
et
dit plus chandail.
Le problème, chandail, bon, mon tricot si tu préfères. Et ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'avais une toute petite boule de cerichon à fumer dans ma poche. Je devrais pas en parler parce que je suis sur le service public, mais on s'en fout, c'est les gilets jaunes.
Donc ça s'appelle du shit.
Et voilà, un petit bout de shit, rien. Et en fait, et je suis arrivé à la gare.
Pour votre consommation personnelle.
Évidemment. Évidemment. Et je me disais, peut-être ça peut. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais aller à Amsterdam. Et donc j'avais ça dans la poche. Et quand je suis arrivé sur le quai de la gare, j'ai effectivement vu un chien, mais mon amour des chiens a rattrapé l'idée que la douane avait des chiens, hein. Et donc je vois le chien, je dis, oh, le chien, j'ai vraiment vu un chien à côté du marchepied du train. Tu sais qui le chien? Je dis, le beau le chien, c'est le chien de la douane. Effectivement, quand on a du chichit dans la popoche et qu'on voit le chien de la douane,
qui fait sniff sniff et qui reconnaît donc la présence de substances illicites,
on dit flûte dans ces cas-là.
C'est extrêmement drôle, et tout le monde en prend pour son grade, que ce soit évidemment internet, les réseaux sociaux, les épiceries fines, le bio, les enfants, enfin, la parentalité aussi, de devenir père, quelque chose que certains potes ne peuvent pas imaginer, si vous n'avez pas la tête d'un papa. Quoi,
disons que quand je raconte mon anecdote...
C'est un délit de sale gueule.
Alors oui, c'est ça, mais en fait, surtout que quand je raconte mon anecdote de la douane que je viens de vous raconter, et que 5 minutes après, je raconte « sinon, je suis papa aussi !» Les gens me regardent en disant « merde alors, il est papa, mais non !» Et donc voilà, donc j'explique la complication que ça peut être d'être père quand on a fait des choix dans la vie qui sont ceux que j'ai faits.
Ça sera donc... Alors, quand on dit que ça s'arrête, est-ce que c'est une manière de créer une communication et de suivre, de faire durer encore le spectacle, ou vraiment vous voulez mettre fin à ce spectacle? Vous avez déjà écrit la la suite de Bon Chien Chien?
Alors,
vous avez changé de code sur votre compte en banque en ligne?
Non, non. En fait, l'idée, c'est que ça fait plus de, ça va bientôt faire 3 ans que je joue ce spectacle
et qu'un spectacle. Thomas, le bouton là que tu touches,
c'est le
volume d'Albert.
C'est le casque d'Albert. Ouais, mais j'ai envie de le mettre à fond comme ça 2 secondes. Voilà.
Il veut me rendre sourd définitivement. C'est presque déjà fait.
Et donc, voilà, ça fait 3 ans que je joue ce spectacle. L'idée, c'est qu'un spectacle de stand-up, je pense qu'il a une contemporanéité. C'est un mot vraiment que je voulais dire. Je voulais vraiment le dire. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il nous correspond à un moment où, voilà, il me correspond pendant 2-3 ans de ma vie. Et je pense que, là, je réfléchis déjà à un autre spectacle voudrais me faire correspondre.
Oui, qui serait plus proche de votre réalité ou de votre
exactement, voilà, exactement.
De la temporalité. Mais sauf que c'est quand même vous, ça sera toujours vous.
Je fais que des spectacles qui me ressemblent, oui, là, a priori.
Mais donc pourquoi ne pas le faire évoluer en y rajoutant justement des choses plus actuelles, plus sur votre paternité, sur l'évolution de votre vie. Parce que non, mais ces racines là, vous pourrez jamais les oublier réellement. Et c'est un tout. C'est quelqu'un qui vit aussi bien dans le vinyle que dans le CD que dans le numérique. Se rend compte qu'il vieillit parce qu'au bout de 10 minutes, 12 minutes d'un concert, il commence à compter les projos parce qu'il dit bon, bah, ça va, j'ai entendu l'essentiel. Bien ouais. que généralement, les tubes, c'est à la fin et au moment du rappel.
Ouais. Le pire dans un concert, pire dans un concert, c'est quand on arrive et que le chanteur il fait ok, je vais vous jouer un nouveau morceau. On va se faire chier. On le connaît pas. Et le pire aussi, c'est dans les concerts, c'est quand, par exemple,
le mec bourré qui crie rock'n'roll aussi.
Ah bah lui et les mecs, non, mais ça c'est le mec bourré qui gueule dans les concerts, de toute façon, on sait jamais. Il y a toujours des gens qui gueulent entre les morceaux. Et par exemple, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Par exemple, au moment du rappel, on est là, si tu vas voir un concert de Coldplay, au moment du rappel, t'as ceux qui sont là Coldplay, Coldplay. Et t'en as d'autres qui sont là Coldplay, Coldplay. Et je suis là, mais les mecs, calez-vous là, parce que c'est le bordel. Le mec de Coldplay, il va rien comprendre de ce que vous faites. Non, vraiment, un truc qui m'énerve dans les concerts, mais vraiment, j'adorais aller dans les concerts, mais un truc pareil qui m'énerve aujourd'hui maintenant, c'est, par exemple, je vais voir un concert et le chanteur commence à jouer un morceau que j'adore, mais vraiment que j'adore. Je suis là, ouais, j'adore. Et en fait, il le joue pas du tout comme sur l'album. Je suis là, mais c'est mieux sur le disque. J'ai envie de chanter. Je dis, non, tu le chantes pas exactement comme ça. Et le mec, il dit, ouais, mais j'ai envie que ce soit un peu différent en concert. Ouais, mais c'est chiant. Du coup, moi, à ce moment-là, je m'en vais, moi. Si tu fais ça, je m'en vais, moi.
C'est comme certains films, des fois, le livre est mieux.
Ça, on est bien d'accord.
Ouais, on est bien d'accord. Thomas VDB en spectacle à voir, et on a encore beaucoup de choses à dire sur Thomas VDB, mais Albert, on est d'accord.
Écoutez,
quand je vois Jean-Jacques Lang, pardon,
oui,
d'accord.
Bien sûr, Albert est parti.
Oui, Albert, depuis longtemps, il nous a quitté. Jean-Jacques Lang, ça va être encore un succès. Voulez,
bien sûr, très cher Nagui. Le succès, le Bon Chien Chien, un spectacle marrant, hilarant, aussi poilant que Thomas VDB poilu, pourrait évidemment se confirmer, se prolonger, se renforcer, s'amplifier. S'enfler, dilater dans les territoires. Alors, petite parenthèse, de même qu'aujourd'hui, on ne dit plus chandail, Leïla l'a fait remarquer, eh bien, on ne dit plus dans les régions, en province, ou ce qui est encore plus ringard, à la campagne. On dit dans les territoires. Ainsi, pas plus tard que tout à l'heure, cher Nagui, toujours à la pointe du parler de John, au lieu de me demander, le week-end prochain, Jean-Jacques, vous le passerez dans les Vosges, dans votre maison de campagne? Vous m'avez dit, le week-end prochain, vous le passerez dans votre maison de territoire. C'est moderne, ça veut rien dire, mais ça en jette. Mais revenons à Bon Chien Chien. Si j'ai tant aimé ce stand-up, c'est aussi parce que, tout comme Monsieur VDB, je bétifie quand je rencontre un chien-chien. D'ailleurs, c'était déjà le cas avec Baltic, le Labrador, lui aussi, de François Mitterrand. François Mitterrand, dont je rappelle qu'il avait lui aussi beaucoup d'humour. Ainsi, quand derrière lui, avec mon cousin Jack, Roger Hanin, Pascal Sevran, nous gravissions la roche de Solutré, il s'arrêtait et lançait au loin sa canne en nous criant « Va chercher, bon chien-chien !» C'était alors à celui qui courait le plus vite pour lui rapporter sa canne. Et quand il lui arrivait de me tapoter la truffe en me remerciant d'avoir été le plus rapide, quelle n'était pas ma joie, tout frétillant de reconnaissance, de lui lécher la pogne. Une reconnaissance que vous ne semblez pas éprouver, bien cher Nagui, envers JNB, notre rédac-chef, coiffé comme un sous-bras lui aussi. Juste avant l'émission, ne vous ai-je point entendu lui lancer, narquois, « Bon chien chien, encore un cabot, t'invites plus que ça dans cette émission. Mais, oh mon maître, oh mon Dieu, il s'agit de Thomas VDB. Ah, ok, s'il est aussi drôle qu'il est mal coiffé, mal rasé, mal fringué, je suis ok pour l'interviewer. » Voilà, cher Thomas VLB, comment se prépare la bande originale dans le mépris total de l'invité, l'inculture crasse et historique et le tirage à soi de la couverture médiatique. Bonne émission quand même.
Merci à vous.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Avant de faire rire les autres, Thomas, il y a bien quelqu'un qui vous a fait rire ou qui vous a donné envie en tout cas de faire rire. Qui vous fait rire?
Qui me fait rire, mes
amis.
Vous
faisiez rire quand vous étiez amis, déjà.
Alors, quand j'étais enfant, bah, clairement, j'ai eu deux, c'est Louis de Funès, hein, évidemment. Les films de Louis de Funès ont eu vraiment énormément d'impact sur moi. Et en fait, j'ai découvert très tôt les livres de Pierre Desproges, que j'ai lu avec passion quand j'étais ado et que j'ai même préféré d'ailleurs à ces spectacles. En fait, j'adorais Desproges, mais
ce que vous aimiez chez Desproges, c'était le cinisme,
en fait, ce qui me faisait halluciner, c'était les mots, les phrases qu'il faisait, enfin le verbe en fait. Je trouvais que c'est un écrivain incroyable. Il a écrit un seul roman, Pierre Desproges, qui s'appelle Des femmes qui tombent, qui est une enquête extraterrestre qui se passe dans le Limousin, qui a hurlé de rire dès la deuxième ligne du livre. Je me souviens que j'ai lu ce livre, dès la deuxième ligne du livre, j'étais écroulé de rire. Et donc voilà, ça j'avais une passion pour Pierre Desproges et que je préférais clairement lire que regarder en spectacle. J'étais trop jeune pour l'avoir découvert en vrai en spectacle. Mais quand j'ai vu ses spectacles, d'ailleurs, il le disait lui-même, il disait qu'il n'avait pas une voix de comédien vraiment. Il disait qu'il n'était pas vraiment fait pour la scène. Il n'avait pas une voix qui portait très bien.
Il avait ce côté où il marmonnait.
Il avait une voix un peu nasale.
Ouais,
et tout ça,
mais ça donnait justement à une sorte de nonchalance et presque de un début de gentillesse, et il disait des horreurs en marmonnant qui je veux dire, s'il les avait gueulés, ça passe, je pense que ça passait moins.
C'est sûr. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment, en l'occurrence, dans ce qui me faisait rire, j'étais vraiment, la découverte des livres de Desproges a été un truc énorme pour moi. Et puis après, il y a eu, Woody Allen, Annie Hall.
Ah, carrément. D'accord.
Annie Hall, Annie Hall a été pour moi, il y a un gag dans Annie Hall de Woody Allen qui pour moi est vraiment, je me souviens d'avoir regardé, j'étais avec mes parents en train de regarder la télé et j'ai éclaté de rire. J'étais là, c'est ça que je veux faire. En fait, j'étais là, c'est exactement ça que je veux faire. Je trouvais ça incroyable. Woody Allen fait la queue dans un cinéma avec sa compagne, et puis devant lui, il y a un monsieur qui parle hyper fort d'un qui fait une théorie pour draguer une jeune nana en lui parlant d'un universitaire, je sais pas quoi. Et Woody Allen est exaspéré à l'arrière. Il dit, oh, mais c'est pas vrai qu'on est obligé de se fader ce mec-là qui est en train de parler fort. Et à un moment, et l'autre lui dit, écoutez, moi je parle. Il parle à cette nana en disant, oui, je vous parle de Marshall McLuhan, qui est un théoricien très intéressant et tout. Et Woody Allen dit, oh, mais c'est pas vrai qu'il nous parle de Marshall McLuhan en plus. Et le mec se retourne comme ça, il dit, écoutez, je donne un cours sur Marshall McLuhan, donc s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Et là, Woody Allen fait, ah ouais, mais ça m'étonnerait parce que Marshall McLuhan, il est là. Et il sort, le personnage dont le gars est en train de parler, et le mec, donc Marshall McLuhan, dit à l'autre gars, vous avez rien compris à mon métier, je vois pas pourquoi vous enseignez dans une université sur moi. Et là, Woody Allen regarde la caméra en faisant, si c'était ça la vie. Et je trouve que c'est le plus beau gag du monde.
Mais il y a aussi les écrits.
Les pièces de Woody Allen, Dieu Shakespeare et moi.
Les livres de Woody Allen, c'est des opinions.
Voici Alexis le Rossignol. Alexis, chaque année, le dictionnaire de Cambridge désigne le mot de l'année pour 2018. C'est le terme nomophobie qui a été choisi.
Tout à fait, Nagui. Alors, le dictionnaire de Cambridge, c'est un dictionnaire, hein, comme le petit Larousse ou le petit Robert. Sauf qu'on ne peut pas faire de blagues de mauvais goût avec. Par exemple, si on remplace Petit Robert par Dictionnaire de Cambridge dans la devinette « Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel ?», la réponse devient « L'intellectuel, il a le petit Larousse dans la tête et l'homosexuel, il a le Dictionnaire de Cambridge dans le... »
Non, ça marche pas.
Non. Tant mieux, parce que c'est une blague de merde.
Oui, revenons à nomophobie. C'est quoi nomophobie ?
Étymologiquement, la nomophobie, c'est la peur de se retrouver sans téléphone portable. Ah. Vous voyez, ça vient du grec phobos, qui signifie peur, et de nomo, qui veut dire téléphone portable en grec. D'ailleurs, Socrate, légendaire tête en l'air de l'Antiquité, disait souvent « Zeus, j'ai oublié mon nomo chez Platon ». À ce moment-là, son disciple lui disait « C'est pas grave, maître, je vais le chercher ». Et là, Socrate lui répondait « Tu gères, Bastien ». Donc, selon le dictionnaire, ce qui parlait de jeunes à l'époque, comme il vivait pas longtemps. Donc, selon le dictionnaire de Cambridge, nomophobie est le mot de l'année 2018. Parce qu'en 2018, des millions de personnes à travers le monde ont commencé à être angoissées à l'idée d'être éloignées de leur portable ou de se retrouver sans batterie ou sans raison. En 2017, point de vue nomophobie, c'était cool. Il y en avait bien quelques-uns qui avaient déjà une utilisation abusive de leur téléphone, mais rien à voir avec 2018. L'année dernière, c'est monté en flèche comme neige au soleil. Moi-même, je suis devenu nomophobe en 2018. Avant, j'en avais rien à faire de mon téléphone. Que je l'ai pas, c'était pareil pour moi. J'avais mon Walkman dans une poche, ma boussole dans l'autre. J'allais dans des cybercafés checker mes mails. Mais en 2018, il s'est passé un truc. Impossible de me passer de lui, c'est comme une extension de ma main. Je vérifie en permanence qu'il est bien dans ma poche. En dessous de 10% de batterie, je commence à paniquer. Je commence à nourrir un complexe d'infériorité. Je me dis, aucun chroniqueur de talent ne se retrouve avec 9% de batterie. Vous vous souvenez de la parenthèse inattendue de ouais. Frédéric Lopez ouais. Numéro 13 au classement c'est des animateurs hein. préférés des Français.
Ah bon?
Ouais. Bah, personnellement, je l'avais mis 8e. Mais c'est pas le sujet. Dans l'épisode avec Chaim, la chanteuse, à un moment donné, Frédéric tend une corbeille et il dit, je vais vous demander de me laisser vos téléphones portables. Et là, Chaim lui dit, c'est vrai? Combien de temps? Fred lui répond 24 heures. Et là, elle prend son téléphone et elle l'embrasse sur la bouche. C'est là que tu te dis, il y a un problème quand même. Pourquoi Frédéric Lopez invite-t-il Chaim dans son émission? Mais c'est tellement pratique les téléphones, ça fait tout un téléphone. Ce week-end, j'ai découvert l'application Thermomètre qui te permet de prendre ta température.
Non.
J'avais 37,6. Non. Je me suis dit, tu couvres quelque chose. Du coup, j'ai consulté Doctissimo, le site préféré des médecins amateurs, et j'ai lu que jusqu'à 37,8, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, sauf si en parallèle, j'avais une infection hémorroïdale. C'était pas mon cas, puisqu'en prenant ma température, je l'avais pas senti. Le téléphone, c'est génial, ça permet d'être hyper connecté avec les gens. Moi, dès que quelqu'un m'envoie un message ou like une de mes publications, je le sais. Alors, j'attends 5 minutes avant de répondre pour pas montrer que je passe mon temps à regarder mon téléphone.
Ouais.
Mais à l'inverse, si à 16h32, un pote me répond « Excuse-moi, j'avais pas vu mon message, ton message », alors que je l'ai envoyé à 13h39, soit 2h53 plus tôt, je lui dis « Mytho, je sais que tu l'as vu. J'ai vu le vu. Alors, je te surveille pas, mais me prends pas pour un con. » Et puis, le téléphone, ça te donne de la contenance en société. Surtout si tu fumes pas ou si tu bois pas. Quand t'es invité chez des gens que tu n'aimes pas, mais t'es obligé d'aller parce que ce sont des gens de ta famille, ben ça occupe en fait. Et puis vous savez, moi j'adore cuisiner. Autre utilisation du téléphone. Je peux pas me passer de mon téléphone quand je fais mes courses. L'autre jour au marché, j'ai pris des pieds de porc. Bon, tu prépares ça avec une sauce madère, c'est le Portugal dans ton assiette à moins de 5 euros. Hein. Mais je me souvenais plus des ingrédients. Et ben, j'ai dit, hola Siri, ¿cuáles son los ingredientes de la salsa madera? Parce que dans la rue, je m'adresse à Siri en espagnol. Comme ça, les gens qui se disent, ce serait pas le jeune humoriste bourré de talent qui officie chez Nagui? En m'entendant, après, ils se disent, ah ben non, c'est un Sud-Américain.
Alors, ça saute aux yeux.
Après, je dis pas que les téléphones sont toujours une bonne chose. Moi, ma mère est addict à Pokémon Go. Parfois, on la perd, on est obligé de détacher le chien pour la retrouver. Non, mais c'est vrai. Quand on voit ce qui se passe dans Fête entre l'accusé, on n'est pas rassuré quand elle s'éloigne. Enfin bon. J'ai pas trop de chute, si vous voulez, pour cette chronique. Alors évidemment, il y avait un peu d'ironie dans mon propos. Mais voilà, on est hyper connectés. C'est l'époque, c'est ça que je veux dire. Et même Pascal, le grand frère, ne peut rien contre ça. D'une certaine manière, les téléphones portables, c'est un progrès de la société. C'est comme les chaussures. Pendant des milliers d'années, les hommes marchaient pieds nus. Mais depuis que ça existe, tu croises rarement des gens sans souliers. Tu vois. Donc plutôt que de se plaindre, mieux vaut se faire à l'idée que c'est comme ça. Il y a pire, j'ai vu des recettes de jambon fourrées au surimi. Je veux dire, on va où? Alors pour finir, si je peux vous donner un conseil quand même, c'est d'enlever les notifications.
Ah.
Ça, c'est bien. Rien que de ne pas avoir les petites lumières qui clignotent, c'est un soulagement. Moi, grâce à ça, je ne me sens pas obligé, par exemple, de répondre à Leïla quand elle m'envoie apéro, 3 points d'interrogation, à 17h. Mine de rien, à raison de 3 fois par semaine, c'est beaucoup de temps gagné.
Ben oui.
Voilà. Alors ne me remerciez pas, messieurs, c'est cadeau.
Merci. Connecté. Merci. Allez, silence.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Dans la bande originale, Thomas VDB est notre invité, mais tout de suite, voici Fox Warren avec To Be.
takes his time, never looks you in the eye. He's got a head full of ideas to be.
C'était To Be de Fox Warren et nous, nous sommes avec Thomas VDB jusqu'à midi et demi. Thomas, dans votre spectacle Bon Chien Chien, vous n'hésitez pas à vous livrer. Mais est-ce qu'au moment de l'écrire, vous êtes mis certaines barrières ?
Non, justement, je pense que à partir du moment où on décide d'écrire un spectacle sur soi et dans lequel on veut que les gens se retrouvent, dans lequel on veut que les gens trouvent une sorte d'effet miroir et que les gens puissent dire ah bah oui c'est vrai ça m'est arrivé ça aussi.
Ça marche.
Bah oui, il faut
c'est réussi,
sinon
bravo.
Sinon c'est juste raconter sa vie sur scène.
On a tous reçu le mail d'un pote ou d'une copine à l'autre bout
qui
du
dit,
monde.
Je suis coincé à Athènes. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un Western Union de 950 €? Hein, voilà, on l'a tous reçu.
Sauf
ce mail. Que
on finit pas tous avec la même réponse.
Exactement. Ouais. voilà. Non, mais l'idée, c'est que je me souviens même plus de quoi on parlait d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment ça.
De se servir des éléments de la vie.
Exactement.
Et donc, même privé, même intime.
Ouais, mais en fait, à partir du moment où on décide d'utiliser ce matériau-là, on commence pas à trier. Je pense que l'intérêt, il est justement de creuser de plus en plus dans l'intime pour que les gens plus on creuse dans l'intime, plus on va atteindre des niveaux de précision dans l'écriture, je pense, qui font que les gens vont se dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est dingue, parce que vraiment, voilà, fin de phrase annulée. Des fois, j'annule la fin de mes phrases. Il y a droit.
La musique dans la vie de Thomas VDB, vous écoutiez quoi en 99? Placebo, vous écoutez cette musique, ça vous renvoie d'ailleurs dans quelle période de votre vie ?
Alors ça, c'est l'époque où j'ai quitté la ville de Tours pour venir travailler à Paris, donc du coup dans un magazine de musique, et c'est marrant parce que je venais de me faire larguer. Et j'étais triste, j'étais pas beau à voir à l'époque.
Attendez, c'est parce que vous étiez fait larguer que vous avez changé de ville ?
Non, ça a été un hasard en fait. J'ai changé de ville pour le travail, pour venir travailler dans un magazine de musique. Mais à ce moment-là, en fait, je me suis fait larguer par une fille avec qui on avait passé notre temps à écouter cet album de Placebo qui parle de rupture. Et donc, dès que je suis arrivé à Paris,
Avec toi, je ne suis rien. Without you, I'm nothing.
C'est le nom du deuxième album de Placebo que j'ai énormément écouté, qui est un album hyper déprimant, hyper hyper triste. Mais donc, du coup, j'ai géré dans les rues de Paris comme une âme en peine en écoutant Placebo. Walkman, c'était pathétique à regarder.
Walkman,
pathétique.
Encore un vieux mot.
Walkman avec mon baladeur.
Et vous écriviez pour Rock Sound et une des premières interviews, je crois que c'est Rammstein.
C'est pas une interview. Ce qui s'est passé, c'est que non, un des premiers voyages de presse que j'ai fait, c'était aux États-Unis et je suis arrivé dans un hôtel. Et quand je suis arrivé, c'est la première fois de ma vie que j'allais aux États-Unis. Donc déjà, je suis rentré dans l'hôtel en essayant de me donner une contenance comme si c'était normal que je sois là. Alors qu'en fait, c'était pour le boulot que j'arrivais dans un hôtel à Los Angeles. Et donc hyper heureux d'être là pour le travail. Et j'arrive
au frais de la maison de disque.
Évidemment. Puisqu'à l'époque, les maisons de disques payaient tous les voyages de presse. Et donc on me dit il y a une piscine à l'hôtel, donc j'essaie de pas faire ah ouais où ça génial bon. Et donc je fais ah ouais cool, elle est où? Et donc on me dit ouais, elle est sur le toit de l'hôtel. Et j'arrive sur le toit de l'hôtel et là je vois le toit de l'hôtel entièrement vide, uniquement occupé la piscine par les 6 membres de ce groupe de métal allemand Rammstein en slip dans la piscine. Et j'étais là et je connais des tas de gens qui sont fans de Rammstein, mais moi je les ai vus en slip. Voilà.
Et non, tu les as vus en slip, pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas Rammstein, ça ressemble à ça.
Bah eux je les ai vus en slip. Ceux qui jouent ça.
Et en train de lire de la philo.
En train de lire de la philosophie, mais vraiment, il y en a un qui lisait de la philosophie dans la piscine et l'autre à côté qui faisait bronzette. Voilà, donc ce groupe germanique de métal qui.
Et comment on les aborde
Écoutez la voix du mec. Voilà, on a vraiment l'impression d'être revenu dans les heures sombres de notre histoire. Et
donc... C'est Lucifer qui chante, écoute.
En allemand, voilà.
J'adore.
Mais c'est un groupe de scène incroyable.
C'est un groupe culte,
un groupe incroyable.
Ah ouais, ouais.
Et à cette époque-là, vous montez aussi un spectacle? Un spectacle de rue.
Absolument.
Freddy coup de boule.
Quand j'ai quitté la ville de Tours en 99, donc pour venir travailler dans un magazine à Paris, au même moment, donc j'avais fait le conservatoire de théâtre à Tours. J'avais travaillé 2 ans en tant que comédien dans une compagnie à Tours. Et donc quand je quitte Tours pour aller tenter un peu mon expérience dans le milieu du journalisme musical, j'ai un de mes meilleurs potes à Tours qui me dit « Mais attends, mais tu te barres au moment où on devait faire un spectacle tous les deux ?» Parce qu'effectivement, avec ce pote-là, on avait remarqué qu'il se passait vraiment quelque chose quand on jouait ensemble. Et puis, j'arrive à Paris, je dis « Écoute, ça va être compliqué. » Mais je dis « Bon, allez, exceptionnellement, je veux bien qu'on tente quand même d'écrire ce spectacle. » Et puis, le fait est qu'on l'a joué 1-2 fois, puis ça a très vite pris. Donc, tous les week-ends et toutes mes vacances pendant 7 ans, tout le temps où j'étais journaliste, en fait, je les ai passées à aller jouer ce spectacle de rue qu'on a joué 700 fois en 10 ans. Et donc, ça s'appelait Freddy coup de boule, qu'on a joué dans le milieu, dans le réseau du théâtre de rue, qui est un autre réseau de celui des salles de spectacle. Ben oui, puisque en fait, quand j'ai décidé de quitter la presse musicale en 2005, parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, ce métier de ce spectacle, et donc ce spectacle que je tournais à côté, me rapportait suffisamment de cachet pour être intermittent du spectacle. Donc, j'ai eu aucun scrupule en 2005 à me dire, allez, j'arrête la presse, et puis je me lance pour de bon dans les spectacles.
En 2005, vous écoutiez.
Alors,
c'est une vanne que tu veux me faire ou quoi?
Non, pas du tout. Alors là, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un groupe qui s'appelle The New Pornographers, qui est un groupe canadien que j'adore, que j'ai interviewé en 2004, juste avant de quitter Roxanne. Et un jour, mon rédacteur en chef, donc à l'époque, me dit « Bon, faut que t'ailles... » Et en fait, il y a un jour, une attachée de presse qui m'appelle, elle me dit « Ouais, je t'attends pour l'interview des New Pornographers. » Mais je ne savais pas qui c'était. J'ai dit « Mais c'est qui ce groupe ?» Et là, mon rédacteur en chef me dit « Oui, je t'ai pas dit. Vite, faut que t'ailles les interviewer, ils t'attendent. » Et je dis « Mais je sais pas qui c'est. » Bon, donc je me dépêche. Donc ça, c'est horrible. Ça, c'est un truc que je recommande à peu de gens de devoir faire. En fait, je dois me barrer de mon bureau pour aller me retrouver devant 2 gars. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pas écouté leur disque et je leur dis alors. About this album, can you tell me the story of the band? Voilà. Et en fait, c'est très dur de se retrouver à parler à 2 mecs dont on ne sait pas du tout ce qu'il fait parce que j'avais pas eu le disque et mon rédacteur en chef m'a précipité en interview avec eux. Et le fait est que ce groupe est devenu un de mes groupes préférés aujourd'hui. Et donc, j'ai énormément je gêne à l'idée de me dire que je me suis retrouvé à passer pour un con il y a 10 années devant un mec qui est un de mes chanteurs préférés, mais que je ne le savais pas encore à l'époque. Et le morceau qu'on écoute, c'est un passage des New Pornographers.
C'est une reprise de
Hello, de Electric Light Orchestra, sur le plateau de Taratata. Et donc, parce que j'avais vu New Pornographers à l'époque sur le plateau de Taratata, je me disais, mais putain, Nagui, il est quand même bien branché, quand même. Il est bien au courant de New Pornographers. Et donc, voilà, j'étais.
Et pourquoi vous arrêtez le journalisme?
Parce que j'en ai un peu. Parce que j'ai des envies de faire de la scène, tout simplement. Et puis que faire des interviews, faire beaucoup d'interviews de musiciens, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'en avoir un petit peu fait le tour. Ça m'intéressait
genre,
de moins
vous faisiez
moins.
Rire des potes à table, comme ça, ou à la rédac. Vous sentiez que vous aviez un pouvoir comique déjà?
Ben, disons que. Partir le week-end déjà pour aller jouer un spectacle qui était Freddy coup de boule que je faisais à l'époque et revenir à la rédaction donc dans le cadre d'un bureau tous les lundis, ça me donnait vraiment envie de dire à tous les gens ouais vous savez moi je fais ça mais normalement je fais des conneries à côté, enfin voilà, c'est vraiment important pour moi de m'assumer, de me sentir légitime en tant que comédien, en tant que comédien que je voulais devenir en tout
et
cas.
Et c'est l'époque de Boutros Lemage, votre one-man show, vous incarnez un hypnotiseur qui perd ses pouvoirs dès qu'il est en public.
Oui, alors c'est un autre spectacle solo que j'ai également développé en rue. Donc c'est un hypnotiseur qui perd ses pouvoirs dès qu'il est en public. Donc c'est un spectacle que j'ai pas énormément tourné, je l'ai joué 60 fois, mais je l'ai fait avec Fred Touche, qui est un comédien qui joue aujourd'hui dans Les Profs.
Et vous dites que ça marchait bien les 20 premières minutes, mais les 20 dernières, c'est une cata.
Bah, disons que les 20 dernières, les gens comprenaient, mais ça ne marche pas l'hypnose en fait. Effectivement. Mais c'était l'idée du spectacle reposait là-dessus en fait, c'était que l'hypnotiseur était foireux.
Oui, mais c'est que les gens pensaient vraiment voir un hypnotiseur au début.
Je pense que très vite, ils se disaient, c'est un peu du toc cet hypnotiseur.
En 2016, vous écoutiez Spoon. Leïla.
On vous retrouve à la télé avec Mathieu Madénian. Vous l'aviez déjà rencontré quelques années avant, de même que Kader Aoun qui vous met en scène et qui vous a beaucoup accompagné. Et là, c'est les chroniques télé dans l'émission de Thomas Tourou de Actuality. une pastille humoristique qui fait sensation, qui se diffuse hyper bien sur le web, jusqu'au jour où la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, considère qu'il faut arrêter.
Ben, en fait, jusqu'au jour où elle devait diffuser, elle a dit non, il faut pas le diffuser.
Il y a eu deux choses. Vous étiez dans l'émission, l'émission est supprimée.
Exactement. Et France 2 décide de nous garder.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut quand même préciser, l'émission ne fonctionait pas.
Notre petit sketch.
La pastille, elle la remplace ailleurs.
Exactement. Pour
juste
la placer.
Juste avant le journal.
Juste après le journal. Entre le journal de 20h et le film de 20h50. Et donc, quand France 2, donc Xavier Couture à l'époque, nous dit bon, je vous adore, on va vous mettre à 20h50 avec Mathieu. Et honnêtement, à l'intérieur de ma tête, je me dis, mais est-ce qu'il a une bonne idée, ce monsieur-là? Parce que franchement, je me dis, vu le nombre de gens qu'on s'est mis à dos déjà depuis qu'on fait ces sketchs, ouais. Là, d'un seul coup, ça va être beaucoup plus de gens qui vont savoir d'un seul coup qu'on se fout de la gueule de tout le monde. Et donc, on était entre les deux tours des présidentielles. Et donc, on avait utilisé beaucoup le matériau des présidentielles pour se moquer de tous les candidats, du premier tour des primaires et tout ça. Et donc, deux semaines avant le deuxième tour des présidentielles, donc c'est le moment où notre pastille est censée être diffusée à 20h50. Et à 19h45, le jour de la première diffusion, on a un appel de la production qui nous dit bah, finalement, Delphine Ernotte a préféré annuler. Donc nous, déjà, on dit.
Un sketch qui l'avait choqué ?
Alors, c'est un sketch dans lequel elle n'a vu qu'un seul sketch dans lequel elle a vu qu'on s'adressait à. Je crois que c'est un sketch dans lequel on s'adressait à Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Où on leur disait, les mecs, vous savez pas faire le buzz, la seule façon de faire le buzz, c'est d'être mis en examen. Bah, attends, c'est facile d'être mis en examen. Et donc, on disait, bah, prenez exemple sur Marine Le Pen, prenez exemple sur... Et donc, effectivement, c'est pas passé, elle a eu peur. Elle a eu peur.
Et c'est comme ça que vous avez été récupéré par W9, hein, en bout de l'histoire.
Exactement, on a été récupéré très vite. Il y a 2-3 chaînes qui nous ont appelés en disant « Oui, mais nous, ça nous intéresse. » Et donc, en fait, on est allé sur la chaîne qui nous promettait de nous remettre à l'antenne le plus rapidement possible. Et donc, 2 semaines après, on était sur W9.
Sans jamais être...
Censuré ?
Ouais.
Si, une fois, je crois.
Non, il y a une fois, disons que non.
Il y a pas... des conflits d'intérêts avec la publicité, en fait. C'est que vous ne pouvez pas démonter un sponsor...
Disons qu'effectivement, on a fait un sketch un jour. On a fait un truc sur McDo qui était, en fait, c'était pour la journée contre l'obésité. La journée de l'obésité. Et nous, on a fait un sketch. On était là, on s'adressait à McDo et tout. Et en fait, McDo, ils annoncent énormément sur M6 et W9. Donc, comme on se foutait de la gueule des sauces qu'ils rajoutent dans les McDo Luxe et tout ça, on envoie le sketch. Et là, M6 rappelle, dit, ouais, mais bon, il y a McDo qui achète des pubs juste après votre sketch. Donc, on était là, bon, bah, ok. Donc, ils nous ont demandé de changer ça. Donc, et puis la SNCF aussi, parce qu'on n'a pas le droit de dire du mal de la SNCF. On peut faire des blagues.
Ici, on peut.
Mais je ne me suis pas privé sur leur tour de France Inter. Non, quand ils ont changé en inouï, je me suis dit, c'est tellement une bonne idée.
Thomas VDB, sur scène, vous parlez beaucoup de votre âge aussi, de la paternité, d'une espèce de crise de la quarantaine. C'est ce qui nous a donné envie de vous inviter, Sandra Gaviria. Merci de venir à ce micro. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université du Havre. Même quand on est rocker, déjanté, humoriste, journaliste comme Thomas VDB, on a droit à sa crise de la quarantaine ?
Alors en effet, ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, selon tout statut social. Et les trajectoires de nos jours ne sont pas linéaires. Il y a des va-et-vient entre des situations différentes. Et à un moment donné, on peut se sentir en décalage avec les amis, en décalage avec le monde qui nous entoure.
C'est quoi la crise de la quarantaine ? C'est le décalage, c'est la peur de vieillir, c'est de se dire je peux plus me permettre de faire les bêtises que je faisais à 20 ans.
Alors j'adhère pas forcément à l'idée de la crise de la quarantaine.
Alors comment le virage de la quarantaine?
Ça peut arriver à 40 ans, mais ça peut arriver à un jeune qui a fait un parcours excellent, qui s'est marié tôt, qui a un super boulot, qui fait une famille, et puis tout d'un coup il se questionne sur finalement est-ce que c'est ça que je voulais, est-ce que je veux autre chose, est-ce que ça correspond à ce que je voulais.
C'est marrant, moi je croyais que c'était la crise à la cinquantaine ça. Je croyais que c'était à 50 ans qu'on se disait j'ai raté ma vie, je quitte ma femme, je quitte mes enfants.
Moi je croyais que c'était à 60. Moi.
Et je vais aller chercher une fille plus jeune et je vais à nouveau faire des bêtises avec des copains.
Alors dans les sociétés contemporaines, il y a une injonction à devenir soi-même, à être à une authenticité de soi, à être fidèle à ce qu'on veut vraiment. Donc c'est à un moment donné, on sent que notre réalité concrète est en décalage avec ce qu'on est au fond de soi. Eh ben il faut changer. Et ça peut arriver à tout âge. Alors c'est vrai. Que au moment de la jeunesse, on veut remplir les cases. Quand on voit les enquêtes sur la jeunesse, ils veulent avoir un travail, ils veulent fonder une famille, etc. À un moment, quand on voit pour le plus grand nombre, les trajectoires vont se stabiliser. Et à un moment, c'est vrai que ça peut arriver plus souvent autour de 40 ans, mais les objectifs qu'on s'était mis sont remplis pour certains et on se dit, est-ce que C'est toujours ça qu'on veut. Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on aime cette femme? Est-ce qu'on a envie d'une nouvelle femme, de notre travail?
Est-ce que cette crise, justement, c'est le propre de l'homme ou c'est une crise qui touche aussi bien les hommes que les femmes?
Ah, je pense que dans nos sociétés, ça touche tout le monde. Et qu'à un moment, c'est, on se dit, bon, ben, on a fait un chemin et maintenant, est-ce qu'on veut continuer? Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut vraiment ou est-ce qu'on veut changer? Et si on veut changer, ben, il faut mettre les moyens. Et la capacité de changement, c'est pas donner pour tout le monde de la même manière, selon les milieux sociaux.
Ce changement, il peut être aussi bien professionnel que du style de vie ou même de la...
Parce qu'on quitte la ville pour aller à la campagne.
Oui, c'est ça, mais on n'est pas obligé de quitter sa femme non plus. On peut, avec elle...
On n'est pas obligé de la garder non plus.
Si, c'est bien de la garder aussi.
On n'est pas obligé de quitter sa femme, effectivement.
Ni son mari,
voilà. Ouais. Et le changement, ça peut concerner des dimensions différentes. Mais c'est vrai qu'à un moment, autour de 40 ans, il y a des portes qui vont se fermer. Par exemple, pour les femmes, ben, y a l'âge biologique. Donc, si on veut avoir un enfant, à un moment, ça va devenir de plus en plus difficile. En termes de carrière, on sait que dans certains domaines, on ne peut plus accéder, ou les marges de manœuvre sont limitées, ou pour reprendre des études. Donc, c'est vrai que si à un moment, on veut changer certains aspects, il y a des portes qui peuvent être plus ou moins ouvertes.
Ouais, alors, le cas de Thomas VDB dans son spectacle, lui, c'est l'inverse. Il a été un grand môme toute sa vie.
Je suis passé de la crise de l'adolescence à la crise de la quarantaine. Moi, j'ai collé les deux, donc je suis en crise constante en fait.
Oui, c'est ça. Et c'est parce qu'il y a presque une horloge biologique, comme on pourrait en parler chez la femme, de se dire il faudrait peut-être que je fasse un enfant ou que j'ai un enfant à 40 ans. Je vais pas lui laisser autre chose que mon code Wi-Fi. Ça fait partie des vannes dites dans le spectacle.
Alors, je pense que.
Qu'est-ce que je vais laisser comme trace sur Terre et
à part des CD, quoi. À part des CD.
Numérisé.
Alors, que dur, ouais.
Dans le spectacle, il y a plusieurs éléments. Parce qu'on voit bien qu'il a eu une trajectoire qui ne correspond pas à la norme, enfin au comportement de plus grand nombre. Déjà, la moyenne pour les hommes pour avoir un enfant, c'est plutôt autour de 30 ans.
Il y a des choses qui pénalement sont interdites dans le comportement de Thomas VDB.
Et on sent dans le spectacle...
C'est 30 ans la moyenne pour un homme, 30 ans.
Voilà, autour de 30 ans. Et dans le spectacle, peut-être je me trompe, mais on a aussi on voit le décalage avec le monde qui l'entoure. On voit cette admiration pour la culture avec un grand C, et ils touchent aux technologies, mais en même temps, ils sont bien, qu'ils ne comprennent pas tout complètement, qu'il y a certaines choses où ils sont en décalage.
Vous avez bien compris, par contre.
Et on sent aussi même en décalage avec sa compagne, par certains aspects.
Tout à fait.
Justement, on ne va pas détailler l'épicerie, mais on voit bien aussi sur les... Ah ben, on peut décaler...
Non, enfin, détailler l'épicerie, il y a évidemment le comportement, mais tant mieux d'ailleurs, c'est ça qui rajoute à l'humeur et à l'humour. Le comportement de sa femme et le sien n'ont rien à voir. Mais pour en venir à l'épicerie, l'alimentation. Est-ce que dans la crise de la quarantaine fait partie aussi de l'alimentation, de je vais faire attention à ce que je mange, arrêter de manger des pizzas et du fast-food et passer à autre chose?
Alors, c'est pas une question de crise de la quarantaine, c'est une question du corps qui nous parle. Et comme on voit bien dans le spectacle, on voit bien qu'on a mal au dos, qu'on a mal au dos.
Qu'il y a le ventre et les poignets qui poussent.
Qu'on vous a fait comprendre que c'est peut-être mieux d'arrêter de fumer, que vous avez déjà autour de vous vos amis, que certains, ben, ils se rendent compte qu'ils ont déjà arrêté de fumer. Donc, l'alimentation, ça s'englobe dans un tout, je pense.
Ouais, c'est plutôt la santé, faire attention à sa santé.
Bah oui, à sa santé,
l'argent,
à son corps.
Oui, parce que la peur de la mort est là quand même. On parle de la crise de la quarantaine, mais en fait, c'est qu'on se dit. On parlait de quand je me suis fait prendre en photo à côté du pantalon de Freddie Mercury, c'était il y a 25 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Si je fais se réécouler le temps qui s'est passé depuis que j'ai fait cette photo, je regarde en face, j'aurai 65 ans. Et là, j'ai envie de mourir. Je dis, tiens, je vais y arriver vite à 65 ans. C'est pas top, ça. Non, il y a la peur de la mort quand même, et j'imagine que la crise de la quarantaine, c'est une mise en perspective par rapport à ça.
Alors, nous, en tant que sociologues, on ne parle pas forcément ni de crise de la quarantaine, ni de la peur de la mort.
Bon, aujourd'hui, vous allez faire un effort. Allez-y, c'est bon.
Ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qu'on a accomplies. Et si on veut accomplir de nouvelles choses, eh bien, il y a un certain temps, il y a des possibilités. Et il y a des possibilités qui ne seront plus là.
Sandra Gaviria, merci en tout cas d'être venue, Sandra.
Ça nous a rassuré.
Maître de conférence à l'université du Havre. Non, mais c'est drôle parce que dans le spectacle, c'est ce que dit Thomas VDB, on va tous mourir. Ouais. Et c'est vrai que l'idée d'aller voir quelqu'un en concert avant qu'il ne meure, c'est très très drôle.
Non, parce que quelqu'un m'a dit un jour après un concert d'Ennio Morricone, non, mais je suis content parce que tu vois, je l'ai vu avant qu'il meure. J'ai dit, mais quoi, mais il doit de l'argent, Ennio Morricone. Qu'est-ce que c'est cette phrase de dire, je suis content, je l'ai vu avant qu'il meure. Parce que là, tous les gens gens avec qui on parle, c'est toujours avant qu'ils meurent. Ouais. On ne précise pas à chaque fois, mais bon. Ça...
Merci Thomas d'être venu dans cette émission avant que je meure. Voici Tanguy Pastiro, bonjour. Tanguy Pastiro, bonjour. Vous n'aimez pas la foule, vous ?
Non, j'ai peur des gens qui se regroupent. Hein. Sans doute une réaction à la carrière des Spice Girls. La foule nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites tout seul. Regardez le colonel Kadhafi. Seul devant lui, vous lui disiez bonjour, welcome in Paris. C'est un groupe de personnes qui l'a buté. Et aujourd'hui, il nous manque au niveau costume.
On en parle après les infos de midi. Bonjour, la bande originale, c'est reparti pour une demi-heure avec l'humoriste à la coupe de cheveux la plus douteuse de France, à part celle de Daniel Morin. Il s'agit bien sûr de Thomas VDB qui est avec nous aujourd'hui.
Ouais, écoutez plutôt.
Je croyais qu'il était mort, moi.
Mais non, presque.
Il revient quand même.
Thomas VDB, justement, vous jouez avec tout. Hein. Vous jouez avec la mort, vous jouez avec les bons sentiments, vous jouez avec la drogue, avec la police. Vous jouez aussi avec les mots.
On dirait ta vie, Nagui.
Avec les mots. Non, mais je me suis senti extrêmement proche. C'est pas la première fois, mais voilà. Je l'ai jamais dit les yeux dans les yeux, mais parce que certaines personnes ont cherché à nous opposer.
C'est vrai.
L'un à l'autre. Mais...
À un moment, on me disait, Nagui, t'aimes pas.
Je sais
pas, on m'a dit ça.
On t'a dit.
Ouais, dans les bureaux,
c'est la vérité. Totalement faux. Totalement
moi, Nagui m'a dit qu'il t'aimait pas. Hein.
Et je te le dis dans le blanc des yeux, non, je t'adore.
Mais
vraiment,
merci, Nagui.
Sincèrement. Le jeu sur les mots, la manière dont vous choisissez les mots, ou même la manière dont vous dites certains mots ne peuvent pas être utilisés n'importe comment. J'ai adoré quand vous dites on peut pas mettre un mais après certains mots. Ça, c'est pas possible. Et c'est une tellement bonne analyse.
Alors, c'est vrai qu'à un moment puisque c'est arrivé un jour, quelqu'un est venu me voir, après le spectacle, en me disant, ouais, j'ai bien aimé ton spectacle, mais, il y a un moment que j'ai trouvé un peu raciste. Et je lui dis, donc je regarde en disant, non, je lui dis, non, bah bon, il me dit, non, un peu, et là, il croit qu'il m'a vexé, donc il dit, non, un peu raciste, hein, pas raciste, raciste, un peu raciste. Je dis, ah, ça va, alors. Et il me dit, mais ce que je dis, c'est raciste ou c'est pas raciste, mais il n'y a pas un peu
c'est
raciste.
Il n'y a pas de nuance.
Parce qu'il y a des mots derrière lesquels on peut pas, voilà, c'est pas, y a pas de nuance dans certains mots. On peut pas dire, c'est comme les gens qui disent, je suis pas raciste, mais. On sait que c'est toujours, tu vas toujours dire un truc derrière. Il y a des mots derrière lesquels on peut pas mettre, mais on peut pas dire. Parce que je dis un truc, franchement, c'est que je suis pas pédophile. Mais, on est, ah ben non, bah, je pense que si, tu vois. Voilà, je pense que.
Thomas VDB, il est l'heure de retrouver Tanguy Pastiro. Tanguy, l'Afrique est un continent majestueux.
Oui, on y trouve des lions, il en reste 4, des hippopotames, 2, des rhinocéros blancs. Ah non, trop tard, il n'y en a plus. Mais bon, en Afrique, il y a des humains. Et tous mes amis qui y sont allés m'ont dit, les gens sont gentils. On ne dit ça que pour l'Afrique. Jamais un pote revenant d'Amsterdam ne vous dira, les gens sont gentils. Il vous dira, les gens sont défoncés. Ce qui est vrai, moi, la seule fois où j'y suis allé, j'étais à ce point d'équerre que tout le séjour, j'ai discuté avec mon vélo de location. Et le pire, c'est que je trouvais qu'il avait un avis intéressant sur les choses. Il disait, tu vois, le garde-boue, c'est un peu le caouet du vélo. On a donc, nous, les Blancs, mais aussi les autres, je pense à Jean-Pierre Foucault, un rapport à l'Afrique encore paternaliste, à tel point que quand Amadou et Mariam viennent chanter en France, on les aide à se déplacer. Mais enfin, laissons-les, ce sont des adultes. On dit, ouais, mais ils sont non-voyants. Et alors ? Ça leur laisse 4 sens. Si à midi 5, ils suivent l'odeur de tabac froid émanant de la barbe de Daniel Morin, ils arriveront en studio pile à l'heure où Nagui, vous êtes en train de déconner avec Laetitia Gaillet, ou beaucoup moins avec Thomas ou Bruno. Et puis, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'on y a trouvé Lucille Australopithèque, dont Alain Juppé, qui l'a connue de son vivant, dit que c'était une fille très sympa, végane, elle ne bouffait que des petites baies. Mais en fait, on prend ce continent pour une poubelle. Oui, une poubelle. Cet objet dans lequel on jette ce dont on n'a plus l'utilité, comme un peigne pour Eddie de Pretto, ou des cartons de bulletin d'adhésion au PS pour Olivier Faure. Alors déjà en juillet, les Pays-Bas, qui sont au-dessus des Hauts-de-France, hein, ce qui est totalement con. Auditeur, si ton gosse a 4 ans géo, sache que ce n'est pas de sa faute, alertait toutes nos vieilles voitures diesel, disent-ils, celles qui crachent des gaz et particules fines à un point tel qu'après 12 secondes à l'arrière de la Fiat Panda en cause comme Gérard Darmon, se retrouvent au Mali, au Bénin ou au Togo. Les Pays-Bas le savent parce que les voitures partent du port de Rotterdam direction l'Afrique. Elles descendent vers le sud, comme Manuel Valls, sauf que lui n'a pas l'ABS, donc il va dans le mur. Le truc est simple à comprendre, les Européens s'équipent en voitures électriques, mangent du boulgour, ont un mini potager dans la cuisine qui produit une tomate tous les les 15 jours, ce qui suffirait si jamais on était des pucerons, et pense qu'ils sauvent le monde. Mais les diesels qui puent dont on se débarrasse, on les met pas à la casse, puisque le monde est ainsi fait que les plus pauvres récupèrent toujours les déchets des riches. Enfin, les pauvres ou les radins. Moi, je suis content de pas avoir investi en 97 dans l'album de G-Squad, puisque là, en vide-grenier, il était 1,5 centime d'euro. Il y a même pas de pièces qui permettent de l'acheter. Bref, les Maliens, les Togolais qui sont en quête de voitures pas chères, parce que la différence de niveau de vie avec nous est la même que sépare Philippe Poutou de Jeff Bezos d'Amazon, les achètent et la pollution explose. Les mecs ont les poumons dans le même état que la tête de Renault dans le film Germinal en 93, ou que la tête de Renault aujourd'hui dans la vraie vie.
Et en plus, pour aggraver la situation, les cigarettiers écoulent en Afrique des produits nocifs.
Oui, alors à la base, le tabac est nocif. Hein. Avaler de la fumée, ça n'a rien de naturel. Le corps, à un moment, lâche. C'est comme le zouk love. Si vous le dansez, ça finit en claquage, ou en orgasme, ou les deux en même temps, et la personne en face ne sait pas à votre tête où vous en êtes au niveau sensation. Quand j'étais petit, moi, mais la clope, c'était cool. Une Marlboro et les types se prenaient pour des cow-boys. Alors qu'aux États-Unis, ces mecs, ce sont juste des gardiens de vaches. L'équivalent chez nous de Didier, le paysan limousin à pustule, qui compte sur l'amour et dans le pré pour se déniaiser. Enfin, quand le boss de la FNSEA se siffle un glyphosate on the beach, hein, c'est ça qui sert au bar de la FNSEA. Bon, bah, personne n'a envie de faire pareil. Et là, d'après une ONG qui a enquêté, les cigarettiers suisses, donc les autres, c'est pareil, hein, vendent en Afrique des clopes deux fois plus chargées en substances nocives qu'en Europe. Une Camel suisse à 0,70 mg de nicotine, 1,30 si elle est vendue au Maroc. Ce qui n'a qu'un avantage, c'est que les humoristes calés sur le Marrakech du rire vont s'empoisonner, mourir, et que ça va faire respirer un peu le monde de l'humour, parce que là, on est trop nombreux. Chez nous, la vente de tabac s'effondre, donc les marques misent tout sur l'Afrique, où là, ça monte, c'est Satan qui est derrière l'industrie de la cigarette. L'Afrique se farcit nos diesels pourris, des cigarettes ultra chargées, les Africains vivent donc notre vie d'il y a 30 ans. Ce qui est super, ils sont en 89. Ils peuvent porter la moustache et la nuque longue sans qu'on leur demande s'ils sont à Europe Écologie Les Verts. À eux, l'alarme fatale numéro 2. Ils vivent dans un monde où Paula Abdoul est une référence de la pop. Do you love me? Do you love me? Ah, come on now! Pardon, je m'enthousiasme.
Mais c'est incroyable.
Mais écoutez, en 89...
J'ai jamais vu comme ça.
En 89, on avait de la musique. On n'était pas sur du Juliette Armanet avec son piano et sa belle voix. C'était plus démocratique. Une boîte à rythme, une choré, t'étais le roi du monde. Alors certes, les Africains fument des saloperies, comme mon tonton René qui en 89 tirait sur ses gitanes sans filtre. Mais moi, ça me rappelle des tas de souvenirs. 89, c'était génial. Le début du chômage de masse, le sida, la fin de la trêve de l'ETA, les vampes. Oui, non, en fait, bah c'était atroce. Hein. Donc il n'y a aucune raison qu'en Afrique, on revive ça. Les pauvres, ils ont déjà Magic System. Le niveau de vie n'est pas une excuse. Et puis rien que pour les voitures, si nous on roule en électrique, mais que là-bas ils tournent au diesel, dans le cas où on prendrait la chose sous l'angle planétaire, ça n'a pas de sens. Une moitié de l'humanité qui respire de l'air pur en buvant du thé vert et l'autre qui crève, ça va, on a déjà donné.
Bravo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Dans la bande originale de votre journée, voici Alain Bachung, Les Salines.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Et je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit : je n'attendrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
Thomas VDB nous accompagne dans la bande originale jusqu'à midi et demi. Qui dit Thomas VDB dit Mathieu Madénian. Vous avez besoin d'être à deux pour traiter des sujets d'actualité?
Oui, c'est une matière intéressante. Alors avec Mathieu Madénian, on s'est régalé surtout chroniquer quotidiennement, parce qu'en plus on le faisait, c'était pas comme on le ferait à la radio, c'est-à-dire qu'en fait on l'incarnait avec nos personnages à la télévision. Mais ce qui est marrant,
le couple Thomas VDB Mathieu Madénian était structuré dans une forme de
exactement, vous étiez un peu l'enfant un peu débile.
Exactement, c'est-à-dire que en fait ni le personnage de Mathieu ni le mien n'était véritablement proche de ce qu'on fait sur scène, en fait. C'est-à-dire que le duo est vraiment un truc qui est arrivé comme ça entre nous.
Et qui s'est construit comment, d'ailleurs?
Il s'est construit sur scène d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait de Kader Aoun tout à l'heure, qui a mis en scène et le spectacle de Mathieu et le mien. Kader mettait en scène des cabarets qui nous avaient demandé à Mathieu et moi de présenter. Donc en fait, cette hydre à deux têtes qui était le duo de présentateurs qu'on faisait a d'abord existé sur scène avant d'exister à la télé. Mais ce qui est marrant, pour revenir à l'actualité qu'on traitait donc quotidiennement avec Mathieu, c'est qu'en fait à la base, moi c'est pas une matière avec laquelle j'avais l'habitude beaucoup de travailler ou de faire des blagues. L'actualité, c'était moi à la base, mon premier spectacle c'était sur la musique. Le précédent que j'ai fait, c'est pareil, c'était que sur la musique. Et donc je me suis retrouvé quasiment avec Mathieu.
Le mérite de la vie que vous avez ou de vos expériences de vie auxquelles on s'identifie, c'est peut-être moins clivant que la politique où d'un coup là on peut...
Oui, mais alors ce qui est marrant, c'est que du coup avec Mathieu, en fait, on s'est accaparé cette matière, alors chose qu'on n'avait ni lui ni moi l'habitude vraiment de faire avant. C'est la première fois qu'on s'est retrouvé à lire les quotidiens de façon hyper assidue pour essayer de trouver des idées et tout ça. Et voilà, donc c'est la première fois qu'on se confrontait véritablement à l'actualité, quoi.
Voici Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous.
Salut.
J'ai lu qu'il y avait de plus en plus de parents qui faisaient le choix de faire l'école à la maison. Et sincèrement, bah moi, de plus en plus, ça me tente. Parce que l'école à la maison, c'est un peu le télétravail du monde scolaire. Non, parce que sincèrement, le cirque qu'on s'inflige tous les matins, nous les parents, ça n'a strictement aucun sens. Déjà, ton réveil sonne. C'est une aberration. Dans un monde parfait, moi je dis qu'on devrait se réveiller quand on n'a plus sommeil. Les animaux, ils ont un cycle naturel. Le matin,
ils sortent d'une insomnie, c'est pour ça que je dis.
On est d'accord, donc. On devrait se réveiller que quand on n'a plus sommeil. On voit rarement le coq courir, tu vois, on dit « Oh, je suis à la bourre !» pour faire cocorico. Le réveil, c'est la voie du productivisme forcené. C'est le diktat de la société marchande qui t'oblige à sortir de chez toi pour gagner un salaire qui va te servir à payer ton loyer ou rembourser un prêt. C'est une vie de con. Grosso modo, il n'y a pas une énorme différence entre ton réveil matin et un maton qui viendrait gratter les barreaux de ta cellule à 6 heures. Sauf que là, c'est toi qui te l'infligé tout seul. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Frédéric, voyons, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais alors moi, je vous le dis, je n'ai absolument aucune envie de préempter l'avenir de quoi que que ce soit. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça doit vouloir dire que le passé appartient à ceux qui se lèvent tard. Donc moi, je vous laisse les le réchauffement climatique, la surpopulation, les perturbateurs endocriniens et Marion Maréchal Le Pen, et je reste dans le passé avec Shakespeare, Caravage, Kubrick, Jordan, bon, il y a Pétain aussi, mais et les autres, ben voilà. Je vois ici, il faut qu'on soit à l'antenne à 11h et qu'on la rende à 12h30 pétante. C'est important l'horaire. Mais sincèrement, on dit rien qui puisse pas attendre 15 ou 16 heures. Hein. Faut arrêter de surévaluer l'importance de la ponctualité.
Je suis tellement d'accord avec toi.
À l'ère des podcasts, les gens ils t'écoutent pas quand tu veux, mais quand ils ont le temps. Moi, je vois tous les matins, je m'extirpe de mon lit, j'ai une haleine de compost, j'ai les yeux chiasseux, je boite jusqu'à la salle de bain avec un bout de pyjama coincé dans les fesses. On est loin des réveils glamour, Axe, laisser le charme agir. Hein. Moi, mes réveils, ça ressemble à une sortie de boîte et clairement, c'est pas moi qui conduis. Hein. Bon, bah, immédiatement, faut que j'aille dans la chambre de mes enfants pour les réveiller. Et bah, déjà, rien que ça, c'est d'une violence. Parce qu'ils sont vachement bien dans leur lit. Ils l'ont pas entendu, eux, le réveil. Tu regardes leur visage endormi, clairement, ils sont paisibles. Moi, ma fille, les matins, pour la réveiller, on dirait un fonctionnaire qui essaie de négocier une augmentation de salaire. Je galère d'une force. Je sais pas où elle va, ma fille, quand elle dort, mais clairement, c'est un enlèvement. Bon, ensuite, je me vois les stresser. Dès le matin, je suis là, je suis chiante. Allez, dépêchez-vous de vous habiller. Non, pas le pantalon en velours. Aujourd'hui, il y a sport, mais le jogging. Le bleu, pas le noir, il est pas assez chaud le noir. Ta chemise, mais putain c'est pas vrai, t'as boutonné de lundi que dimanche, viens ici. Mais bien sûr que t'as pas fait exprès, mais tu fais jamais exprès. Tu crois que j'ai que ça à faire tous les matins, vérifier si monsieur a bien boutonné sa chemise, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Franchement, mais tu me regardes gérer mes enfants le matin, jamais tu te dis qu'ils étaient désirés, hein? En plus, tout ça pour les emmener dans un système scolaire auquel fondamentalement je ne crois pas. L'école et moi, ça n'a pas été une grande histoire d'amour. Et pourtant, aujourd'hui, vas-y que je mets la pression à mes mots pour qu'ils y aillent. Je suis un sataniste qui veut forcer ses gosses à faire du catéchisme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Déjà de 1, parce qu'on ne pourra pas tous faire de la télé. Hein, et de 2, parce que savoir lire, écrire et compter, c'est la base. Mais ça ne prend pas 24 heures par semaine. Vous vous rendez compte de la foi qu'il faut avoir? J'envoie mon fils à l'école tous les matins en espérant qu'il soit attentif pendant 6 heures. Là où je sais qu'en 3 minutes de chronique, j'ai déjà perdu des gens. Vous n'avez une question de vous, tu vois les invités, des fois ils savent même plus où ils habitent à la fin. Donc 6 heures de cours à être concentré, mais c'est pas du délire ça? Mais moi je sais qu'au fond, si j'envoie mes enfants à l'école tous les matins, c'est surtout que je peux pas les garder avec moi. C'est juste ça le truc. Je travaille, ma femme travaille, donc on sous-traite nos responsabilités. Bah allez-y, vous documentez pendant que nous on fait autre chose, quoi. Et c'est pas plus mal, parce que mes enfants jusqu'à maintenant, ils ont vraiment eu de super profs. D'autant plus étonnant quand on voit combien ils sont payés. Non, parce que moi, payé comme eux, je fais 15 minutes de cours et le reste, je m'en bats le steak. Hein. Attends, parce qu'après, tu dois taper les programmes qui changent tout le temps, l'inspection académique, les parents qui sont convaincus que leur fils est précoce parce qu'il mange la porte des toilettes avec ses dents. Mais, alors que c'est juste que des fois, t'as envie de dire non, il est pas précoce, il est con, votre gamin, c'est juste ça. Hein. Un métier tellement mal considéré que plus personne veut le faire. Du coup, le rectorat abuse de contractuels qui se retrouvent sans expérience à gérer 4 ou 5 classes. Donc oui, pour le moment, j'accepte encore l'idée d'envoyer mes enfants à l'école publique parce que je sais qu'ils feront mieux que moi. Mais vu comment l'État français traite les profs à longueur d'année, eh ben il arrivera un moment où je me dirai peut-être, allez, on coupe le réveil, on fait une grasse mat, on l'a bien mérité.
Merci.
Avec Nagui.
Thomas VDB, prochaine étape pour l'auteur que vous êtes, cinéma. Un film, un scénario, peut-être déjà en tête?
Alors, c'est clairement une envie, même si... Alors,
c'est
je sais
concret.
Pas. Moi, c'est une envie. La fiction, c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis toujours. J'ai la chance de faire un peu de cinéma, d'en faire de plus en plus, même.
Bah, on va le dire, vous serez à l'affiche de Premier de la classe.
De Stéphane Benlacen, qui sort cette année.
Voilà, Stéphane Benlacen, pas Stéphane Bernlacen, parce que là, on ne comprendrait plus
pourquoi. Stéphane Bernlacen, on ne comprendrait pas. On n'irait pas le voir, peut-être.
Avec Michel Larocque. Et Fatsa Bouyamed.
Exactement. Et puis également, je viens de tourner le film de Marie-Lou Berry qui s'appelle Quand on crie au loup, avec Gérard Jugnot. Et c'était une expérience de tournage incroyable qui s'est passée. On a tourné le film entièrement dans un immeuble à 200 mètres d'ici. Et tout le film a été entièrement tourné dans un immeuble. C'est une sorte de huis clos comique et très très sympa. Ça a éclaté à tourner.
Et Play aussi, d'Anthony Marciano.
Voilà, le prochain film de Max Boublil qui raconte l'histoire d'un comédien qui se filme depuis sa naissance jusqu'à sa réussite en tant que comédien en fait. Et donc c'est un film entièrement tourné avec une petite caméra.
Donc ça veut dire être comédien en jouant les textes écrits pour un personnage et pas pour vous en particulier.
Exactement.
Ça vous aimez aussi?
Absolument. Alors après, il faut
interpréter.
interpréter, alors si ce qu'on me demande ou ce qu'on propose d'interpréter me séduit aussi, c'est-à-dire que il faut que je me retrouve, à l'aise dans les chaussures du personnage, il faut que jouer ce personnage m'amuse.
Vous pourriez jouer un policier, un bandit, un homme politique, enfin.
Alors aujourd'hui, je suis clairement plus attiré par la comédie quand même. Mais
quand on veut être comédien, tous les rôles sont valables, non?
Oui, non, je suis pas un comédien qui peut jouer Shakespeare comme ça. Pourquoi pas? Parce que déjà, je sais pas si j'en aurais envie complètement.
En tout cas.
Je pense que non, puis j'ai peur qu'il y ait des potes qui soient dans la salle. Si je joue Shakespeare, ils vont être là, ah bah, on te voit, hein, on voit que c'est toi. Je vais arrêter, les gars. Bon. Donc, non, c'est pour ça que je me sens plus à l'aise dans le milieu de la comédie aujourd'hui. Et donc, voilà, chaque chose en son temps, mais le cinéma commence à me proposer des choses, donc c'est super.
Et puis, vous avez aussi un podcast sur Deezer.
Exactement, qui s'appelle 100 VDB par minute.
C'est quoi le principe?
Alors, le principe, en fait, j'ai eu un podcast, ça fait 2 ans que je produis des podcasts pour Deezer. J'en avais un l'année dernière qui s'appelait Rétro 2050, qui était un programme qui se passait dans le futur, et dans lequel on traitait toute l'actualité du monde d'aujourd'hui, mais vu du prisme du futur. Et c'est-à-dire qu'en fait, on était en 2050 et on parlait de, souvenez-vous, il y a 30 ans, Emmanuel Macron, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc voilà, c'était notre idée. Et donc, on avait un invité en face de nous dans chaque programme, et on a enlevé en fait cet alibi du futur. On a enregistré 30 programmes qui se passaient dans le futur comme ça. Là, on fait une émission où j'ai un invité avec qui on vient parler sur l'actualité et tout ça, qui est vraiment l'idée, c'est de faire vraiment des conneries et de faire un programme qui soit drôle. Mais on a enlevé ce prétexte du futur qui perdait un peu nos invités, parce que quand je disais à Vanessa Paradis, alors entre 2035 et 2040, on vous a complètement perdu de vue. Hein, c'est sûr. Là, qu'est-ce que je dois dire?
Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui en perdent vite.
Il y a des gens.
Tout le monde ne part pas dans tous les délires, mais on a l'impression que vous en avez tellement. Est-ce que vous avez l'angoisse de la page blanche aussi par moment?
Non.
Les idées, vous en avez 10 000 à la minute.
Oui, non, mais les idées. Ensuite, c'est savoir exactement en quoi est-ce qu'on convertit une idée. Quand on parlait tout à l'heure de prise
et
de notes.
Et la fausse bonne idée. Est-ce que
et la fausse bonne idée. Ça, je suis FBI. Spécialiste des fausses bonnes idées. Hein, j'ai écrit une encyclopédie de la fausse bonne idée. Non, mais voilà, effectivement, quand on a, je reprends Marina à témoin, mais à chaque fois qu'on est témoin de quelque chose qui nous fait rire, dont on se dit, ah, ça pourrait être marrant. Mais quoi, ça pourrait être marrant dans un spectacle, dans une chronique à la radio, sur scène, dans un sketch. Et donc, c'est l'adaptabilité, en fait, de chaque idée. Ben, je pense que ça vient un petit peu avec l'expérience, si j'ose croire.
Et alors donc, vous avez relancé sur les participations, les nombreuses participations que vous faites au cinéma, l'écriture d'un scénar du début jusqu'à la fin, voire sa réalisation. Ça, c'est quelque chose qui vous gratte?
Alors, complètement. En fait, c'est le duo qu'on fait avec Mathieu, par exemple. On sait que c'est un duo qu'on veut absolument, en tout cas nous deux, mettre
décliner au cinéma.
Ouais. La difficulté, c'est de trouver exactement l'histoire qui convienne bien à ce duo. C'est-à-dire que, alors, on a beaucoup d'idées, on réfléchit, on met des choses sur du papier en ce moment. Mais voilà, je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas scénariste. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont scénaristes, ils savent que l'écriture d'un scénario.
Vous êtes auteur. Vous êtes auteur.
Oui, voilà. Mais, aller au bout de l'écriture d'un scénario, parce que je peux parler des nombreux scénarios que j'ai commencé à écrire. Alors là, je suis un spécialiste des débuts de scénario. Ah bah, j'en ai des kilomètres.
Une encyclopédie.
Est-ce que vous avez déjà écrit pour d'autres? Sans que ça soit vous qui portiez les vannes ou les histoires.
C'est pas ma priorité. Donc si ça m'est arrivé de le faire, c'est que c'était pour dépanner. Ou voilà, j'étais dans une situation qui me demandait de faire ça. Mais l'idée, c'est d'écrire. En fait, c'est quand on est comédien et quand on écrit pour soi, c'est déjà génial d'avoir cette chance de pouvoir se créer des opportunités en tant que comédien. En fait, donc c'est-à-dire d'être l'auteur de son propre comédien.
Et vous écrivez tout seul?
J'écris tout seul, mais j'écris aussi, j'interagis aussi beaucoup avec des gens avec qui j'écris, avec que ce soit un monsieur qui est sur Twitter, qui s'appelle Jean Moundir sur Twitter, qui est un des tweetos les plus rigolos et avec qui j'ai le bonheur d'écrire, et avec un monsieur qui s'appelle Jocelyn Borda aussi pour mes podcasts, avec qui j'écris et qui est très talentueux.
Podcast, j'ai raté celui d'Alison Wheeler où je mangeais un tout petit peu.
Oui, il était question de toi apparemment.
On a fait des blagues certainement. Il y a peu de gens sur qui on fait pas de blagues.
C'est ça. Merci Thomas VDB d'être passé nous voir. Quant à nous, on revient dès lundi avec une bande, une troupe encore plus remontée que jamais. On vous souhaite une très bonne journée. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée, bon week-end et à lundi.